premier temps d'une série de la Fabrique de l'Histoire titrée Moyen-Âge en mouvement, pendant laquelle nous parlerons d'une période bien moins immobile qu'on a longtemps voulu le croire et le dire. Après un nouvel épisode de notre feuilleton que vous suivez maintenant depuis plus d'un an et demi, La Fabrique de la Guerre froide, nous plongerons dans le haut Moyen-Âge avec l'historien Bruno Dumézil qui vient de diriger un formidable ouvrage collectif aux presses universitaires de France, titré très sobrement Les Barbares. Cet ouvrage à la fois synthèse et dictionnaire nous fait voir en effet différemment cette période du haut Moyen-Âge et revient salutairement sur bien des idées reçues. Puis en deuxième partie, un autre historien, William Blanc, démolira lui aussi quelques idées reçues sur les chevaliers de la Table Ronde et le roi Arthur grâce à son travail de fine analyse des représentations au XXe siècle, au cinéma, en bande dessinée et ailleurs, de cette histoire de la quête du Graal. Mais tout de suite, je vous l'ai promis, 59e épisode de notre feuilleton La Fabrique de la Guerre froide par Anaïs Quien et Françoise Camard. Nous sommes entre le Vatican et l'URSS.
Věřme dál v socialismus a demokracii.
Vážení přátelé,
uvažujeme i hosti.
27e siège KPSS.
Sous la conduite du général Volcker et du général Dean, héros des combats de Tejan.
Placed and is placing medium and intermediate range missiles and sites in Cuba. Yes or no?
La fabrique de la guerre froide.
C'est assez rare, nous avons pu lire une dépêche de l'agence TASS, attachée du Vatican, qui donnait quelques citations, des citations bien choisies, de l'encyclique Paix sur Terre. Assez curieusement, ce titre est d'ailleurs devenu, dans le texte russe, Paix au monde, ce qui rappelle un peu la terminologie employée dans les congrès de la paix. Les citations choisies par TASS sont surtout celles dans lesquelles, dans 23, insiste sur la nécessité de mettre fin à la course aux armements, sur la responsabilité à cet égard des nations les plus avancées, sur le danger d'un accident qui déclencherait l'Holocauste atomique. Ce sont là des thèmes qui ne sont pas nouveaux en Union soviétique, ils sont constamment répétés par les orateurs, par la presse, par la radio, mais d'une manière évidemment polémique et en attribuant à l'impérialisme la responsabilité totale de cet état de choses. Il est certain en tout cas que ce résumé par l'agence TASS, par l'agence officielle, équivaut à une espèce d'approbation.
Depuis 1962, le Concile Vatican II rassemble l'Église catholique qui tente de se moderniser. À cette occasion, la papauté affiche également l'évolution de sa position face au communisme dans l'encyclique Pacem in Terris, publiée le 11 avril 1963. L'agence de presse soviétique TASS s'en réjouit immédiatement.
La position du Vatican vis-à-vis du communisme avait évolué un peu avant le Concile.
Thomas Grenier.
C'est-à-dire avec l'arrivée de Jean XXIII en 1959. Dans les années 50, il y a eu des initiatives. Il y avait eu même des recherches de théologiens qui avaient essayé de trouver des liens entre le marxisme et puis le christianisme, entre le thomisme, saint Thomas d'Aquin, et Karl Marx. Alors, l'Union soviétique avait pris conscience que le Vatican, c'était un pouvoir moral qui comptait, enfin qui avait une certaine importance, qu'il ne faut pas surestimer ni sous-estimer. Et l'Union soviétique, à partir d'un certain moment, après la mort de Staline, avec l'avènement de Khrouchtchev, était intéressée par établir des relations avec le Vatican.
Et dans la préparation du Concile de Vatican, donc l'archive qu'on vient d'écouter date de 1963, dans la préparation de ce Concile, quelle place a occupé peut-être la question des relations justement entre le Vatican, la chrétienté et cette première grande expérience communiste qu'est l'Union soviétique?
Alors les évêques et les cardinaux qui étaient responsables de la préparation du Concile avaient reçu la consigne de ne pas prendre de front le communisme. Jean XXIII s'était rendu compte qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Deux mondes qui ne se parlaient pas, qui s'ignoraient complètement. Il fallait que la situation évolue, enfin il fallait que les gens parviennent à se parler. Le Concile c'était « sortons de nos sacristies et allons voir le monde, allons dialoguer avec le monde ». Et Jean XXIII pensait qu'il était temps, il avait eu l'intuition en 1959, en janvier, je crois, 1959, lorsqu'il a annoncé un concile que personne n'attendait. On pensait que ça serait un pape de transition. Or, Jean XXIII s'est imposé comme tel, comme un pape du changement.
Il y avait eu des condamnations frontale de l'URSS, du communisme même peut-être, par la papauté auparavant ?
Ah oui, tout au long des années, la fin des années 40 et puis tout au long des années 50, il y a eu des condamnations répétées. Alors, parfois le mot communisme apparaît dans les encycliques de Pie XII. Parfois, on parle de matérialisme athée ou d'État qui ne respecte pas les libertés religieuses, d'État qui persécute les prêtres et les évêques. Et on sait très bien qu'il s'agit de l'Union soviétique et des pays soviétisés, quoi. Alors, il y avait une autre préoccupation, c'était la situation des églises dans les pays de l'Est, des églises catholiques qui n'étaient pas bonnes. Il y avait des différences entre les États, par exemple la Pologne. En Pologne, l'Église est restée toujours puissante, donc l'État polonais a toujours dû compter avec une Église très forte. Mais ça a été beaucoup moins le cas en Hongrie et en Tchécoslovaquie. Et là, les États communistes avaient essayé d'imposer des églises nationales, coupées de Rome, sans lien avec Rome, et des églises qui étaient contrôlées par un organisme d'État qui nommait les évêques, qui décidaient de ce qu'il fallait faire, même du contenu des sermons, qui décidaient des enseignements dans les séminaires. Ce qu'a réussi quand même à faire l'État communiste, c'est à les diviser jusqu'à un certain point, à créer des mouvements, comme en Tchécoslovaquie, l'Action catholique, qui était sous contrôle de l'État, et puis le clergé qui était resté loyal, les évêques qui restaient loyaux à Rome, et eux avaient beaucoup de mal à survivre. Alors certains ont été même emprisonnés. En Hongrie, mais la situation était également très dramatique pour ces évêques qui essayaient de tenir le coup. Alors il y a eu le procès du cardinal Mindszenty en 1949, puis son emprisonnement à 8 ans d'emprisonnement. Alors tout ça, ça n'allait pas dans le sens d'une reconnaissance internationale de l'Union soviétique. Enfin, c'est cette persécution répétée. Alors, à la fin des années 50, l'Union soviétique essaye peut-être de faire un peu oublier tout ça. Il y a eu des libérations d'évêques.
Parmi les très nombreux libérés de ces années qui suivent directement la mort de Staline, ces années de déstalinisation.
Voilà, il y a eu des libérations, il y a eu des réhabilitations. Mais dans certains pays, l'État voulait continuer à contrôler tout en instaurant de bonnes relations, enfin des relations avec le Vatican dans une optique de reconnaissance internationale. Alors il voulait un peu le beurre et l'argent du beurre, quoi, si je puis dire. Quoi.
Voilà donc pour ce 59e épisode de notre feuilleton La Fabrique de la Guerre Froide, préparé et réalisé par Anaïs Quin et Françoise Camard. Vous pouvez bien évidemment le télécharger séparément du reste de l'émission. Bonjour à vous William Lan.
Bonjour.
Et bonjour à vous Bruno Dumézil.
Bonjour.
Et tout compte fait, venant parler l'un du roi Arthur et l'autre des barbares, je ne pensais pas que la Guerre Froide s'inviterait dans notre discussion, puisque vous nous expliquez dans Le Roi Arthur, vous en parlerez dans la deuxième partie de l'émission, en l'occurrence William Blanc, que, eh bien, justement, la guerre froide a quelque chose à voir avec la tout mythologie fait, du roi Arthur dans le cinéma, la bande dessinée du XXe siècle.
Ouais, tout à fait, ouais, parce qu'en effet, il y a une vague de films arthuriens aux États-Unis dans les années 50, et quand on les regarde précisément, ces films développent en fait une imagerie où les chevaliers à table ronde représentent en fin de compte cette Amérique qu'on imagine assiégée par des communistes, et évidemment, les adversaires du roi Arthur en fait sont des communistes en fait, voilà, pendant ces films.
Et au dernier feu de l'Union soviétique, sous Gorbatchev, un réalisateur, Victor Gress, ouais, je crois qu'on prononce comme ça, ouais, réalise en 88 une adaptation soviétique de cette histoire qui vient passant par Mark Twain, ouais, jusqu'à nous.
Et qui passe par Mark Twain, parce que Mark Twain, c'est l'œuvre arthurienne la plus adaptée au cinéma. Donc le Yankee du Connecticut à la cour du roi Arthur. Et puis en effet, vu que dans ce roman-là, il y a une critique profonde des États-Unis, notamment à la fin du roman, et bien en effet, ce film a été. C'est un film assez étonnant d'ailleurs. Il n'y a pas grand monde qui l'a vu en France.
Hein, vous êtes un des rares à l'avoir vu. Et Bruno Dumézil, vous vous êtes colté à une notice dans Les Barbares. C'est un dictionnaire, un livre tout à fait polymorphe, formidable, il faut le dire, publié aux presses universitaires de France, que vous avez dirigé et dont on va parler maintenant. Vous êtes colté à une notice, Isaac Asimov.
Eh oui, pourquoi pas? Parce que...
Alors comment le père de la science-fiction américaine, d'origine russe évidemment, rentre dans une histoire sur les barbares?
Ben parce que les barbares, ça resserre à toutes les sauces, à toutes les époques. Et notamment lorsqu'on crée ce genre littéraire qui est la science-fiction, dans les années 1930-1950, Ben, c'est le contexte de naissance de la guerre froide. Et Isaac Asimov, russe, mais aussi qui a lu Gibbon, qui a lu toute l'historiographie de l'Empire tardif, de l'Antiquité...
De la fin de l'Empire romain.
Et du Moyen-Âge, réinvente un monde fantasmé dans les planètes, mais avec des civilisations qui sont les civilisations de la guerre froide. Un bloc libre, avec de l'espace, avec la libre entreprise, et un monde fermé, avec la rationalisation du travail. Ben, c'est un petit peu les deux mondes qui s'opposent. Et les deux mondes s'insultent avec la rhétorique de la barbarie du IVe siècle.
Alors, on voit bien par cet exemple, pour entrer dans votre ouvrage que vous avez dirigé avec 140 auteurs, c'est ça Bruno Dumézil ?
Oui, à peu près 140 auteurs.
Donc on voit bien effectivement que le terme de barbare sert à tout. D'ailleurs, vous commencez dans une longue introduction avec d'autres auteurs à raconter pendant plus de 100 pages comment ce terme de barbare est né, chez les Grecs d'abord, et puis comment ensuite il a été appliqué par l'Empire romain, comment il a migré vers le Haut Moyen-Âge et le Moyen-Âge. Et effectivement, que peut-on dire aujourd'hui du renouvellement du regard que nous avons sur ces barbares, tels qu'on en parle généralement, et en particulier sur ces invasions barbares dont vous êtes spécialiste et qu'on n'appelle plus maintenant les invasions barbares?
Alors, on ne les appelle plus invasions, mais on peut encore les appeler invasions. Tout dépend du point de vue. Si vous êtes du point de vue des sources romaines, il y a invasion. Si vous êtes du point de vue d'un historien des années 1950, il y a ethnogénèse, création de peuple, réinvention d'identité. Si vous êtes du point de vue d'un historien des années 1980-1990, il n'y a rien, peut-être. Il y a simplement une transformation du monde romain. Et puis aujourd'hui, on se dit finalement, il y a différents phénomènes. Et on essaie moins de chercher une vérité ultime, peut-être, de se dire, il y a invasion ou il n'y a pas invasion, il y a transformation ou il n'y a pas transformation, de se dire, ben, selon les cas, sur les différentes frontières du monde romain, il y a eu différentes civilisations, différentes transformations, différents phénomènes. Les Vandales, c'est pas comme les Francs. Les Anglo-Saxons, c'est sans doute pas comme les Ostrogoths. Et il n'y a pas des barbares, mais il y a des peuples différents, des situations, des transformations possibles.
Alors, c'est vrai que moi j'ai découvert en vous lisant que par exemple, si j'étais espagnol, je considérerais que le Haut Moyen-Âge, que je considère en tant que français parce qu'on me l'a appris comme tel, naissant vers le milieu ou la fin du 5e siècle après notre ère, et ben ce Haut Moyen-Âge, il commence plutôt à la fin du 7e siècle ou dans la deuxième moitié du 7e siècle, parce qu'on considère, ou même au 8e siècle, on considère que ce sont les invasions donc arabes qui marquent le début du Moyen-Âge pour la péninsule ibérique, et pas le reste, parce que les Espagnols, dans le parcours scolaire, ils apprennent que, eh bien, justement, cette période qu'on appelle chez nous la période des barbares est la suite ou la continuité de l'Empire romain, Bruno Dumézil.
Oui, tout dépend de la date que vous choisissez à l'école. C'est là qu'on se forme, c'est là qu'on se fait ses grandes idées. Quand est-ce que s'arrête l'Antiquité? Bien, chez nous, c'est plutôt 476, déposition du dernier empereur d'Occident.
Romulus Augustule.
Le petit Romulus Augustule, dont le papa était quand même le secrétaire d'Attila, ce qui laisse supposer qu'il avait quand même quelques petites accointances du côté barbare. Mais pour nous, c'est la grande date politique. Pour les Espagnols, c'est un peu différent. C'est de se dire que jusqu'en 476, on vivait dans l'Empire romain, mais ensuite, on a été dans le royaume visigothique, qui parlait latin, qui était chrétien, qui avait des grandes traditions culturelles romaines. Et donc, il n'y a pas de césure. Pour les Espagnols, la grande césure, c'est 711, le moment où l'invasion arabe transforme radicalement la péninsule.
Et pour les Byzantins, ou du moins pour l'Est de l'Empire romain, c'est encore d'autres dates effectivement qu'il faudrait choisir.
Alors pour les Byzantins, ça sera éventuellement 1453, la disparition de Constantinople. Et puis pour nos voisins allemands, pendant très longtemps, il n'y a pas eu de rupture, puisqu'il y a eu une grande antiquité germanique dont finalement ils étaient les héritiers. Se dire qu'entre les Germains de l'Antiquité, les Francs, le Saint-Empire, et puis l'Allemagne qui a vu le jour au XIXe siècle, on n'a qu'un grand mouvement de Germanentum, de germanité, qui s'est transformé, qui a connu des inflexions, mais sans césure, sans rupture.
Oui, parce que quand il s'agit de définir qui sont ces barbares, on a un peu de mal entre ces Francs qui deviennent supplétifs de l'Empire romain au milieu du IVe siècle ou au IVe siècle parce qu'ils sont justement sur cette frontière et que les Romains ont bien compris qu'il était plus intéressant de les intégrer comme mercenaires ou comme population supplétive. Et puis, je ne sais pas, d'autres populations qui arrivent plus tard, les uns ou d'autres, effectivement, il y a peut-être des différences. Et surtout, est-ce qu'on les catégorise par, disons, comme vous disiez tout à l'heure, une ethnogénèse, une population très différente, des populations différentes les unes des autres, ou par la religion, par leurs mœurs, par leurs habits, par la façon dont ils se distinguent des autres?
Ben, tout dépend du point de vue. Si vous voulez conspuer quelqu'un, vous dites que c'est un barbare, vous n'avez pas d'hésitation, il sent mauvais, il a des cheveux différents des vôtres, il n'a pas les mêmes vêtements. Si au contraire, vous avez des acquaintances politiques ou culturelles avec lui, vous ne voyez plus la barbarie. Et de toute façon, quand on regarde la situation des peuples dans l'Antiquité tardive et au début du Moyen-Âge, on peut tout décrire. Prenons le cas des Francs. Vous avez des Francs en Germanie indépendante qui se battent assez régulièrement contre l'Empire. Vous avez des Francs à l'intérieur de l'Empire qui servent de supplétifs, vous avez dit, oui, de légions étrangères à l'Empire romain. Et puis, les grands généraux de l'Empire sont Francs également. Mais ceux-là, ils ont demandé la citoyenneté, leurs enfants épousent les empereurs. Eh bien, il faut bien reconnaître que tous sont appelés francs, mais dans des contextes différents. Si vous traitez quelqu'un de franc, bah, c'est une insulte, mais l'insulte n'a pas le même sens si vous traitez un barbare de Germanie de franc ou si c'est le grand général avec qui vous avez des problèmes politiques à ce moment-là.
Oui, c'est d'ailleurs la question que se pose aussi l'Empire qui n'est pas encore byzantin, enfin l'Empire, donc la partie orientale de l'Empire romain, se demande s'il faut faire monter, barbariser ces hautes sphères du pouvoir en faisant monter des généraux d'origine barbare, mais qui ne se pose pas la question de faire dans ses troupes, justement, plutôt au ras du sol, de faire venir beaucoup de ces barbares pour pouvoir faire la guerre.
Oui, l'armée byzantine est en très grande partie barbarisée. Mais les Byzantins vont faire le choix d'arrêter la barbarisation, entre de nombreux guillemets, de leur haut commandement militaire au début du 5e siècle. Alors que l'Empire d'Occident va avoir cette tradition d'avoir une armée romaine qui est commandée par des barbares. Mais attention aussi de ce point de vue-là, on parle de barbares parce qu'ils ont des noms barbares, mais est-ce que eux-mêmes se décriraient comme des barbares? Le grand régent de l'Empire en l'an 400 s'appelle Flavius Tilicon. C'est un fils d'officier vandale, d'accord, mais en même temps on a des représentations en pied, il est représenté comme un consul pratiquement républicain. Et il s'appelle quand même Flavius, c'est-à-dire qu'il a un nom impérial, sa fille a épousé l'empereur Arcadius, on peut se dire que cet homme-là est pratiquement romain, et sans doute se pense-t-il comme romain. Il va même jusqu'à interdire le port des vêtements barbares dans la ville de Rome, autant dire qu'il est vraiment intégrer à cette civilisation méditerranéenne.
Et puis, ce regard, il change et il ne change pas. C'est-à-dire qu'on a le choix à différentes périodes, à la fois sous la période de l'Empire, le Premier Empire, dès le début de notre ère, mais plus tardivement au fur et à mesure, à considérer, comme le faisaient d'ailleurs les Grecs, qu'il y a soit une pureté barbare, quelque chose de, effectivement, une force brute comme ça, mais aussi une force pure qui n'a pas été amollie par la civilisation romaine. Soit de l'autre côté, une barbarie, justement, parce que cette force brute est violente, brutale, etc. Et le regard porté sur ces barbares, tout au long de ces périodes, y compris jusqu'au 5e, 6e siècle, peut être, justement, ambivalent.
Oui, le barbare est ambivalent. Il y a toujours la possibilité d'utiliser le discours moral, de se dire que le barbare étant l'être proche de la nature, eh bien la nature est positive, donc le barbare est positif. On trouve ça chez les Grecs, mais surtout chez les Romains. C'est Tacite, surtout vers l'ensemble de notre ère, qui dit que les Germains sont des gens formidables parce qu'ils ne connaissent pas le sexe. Disons, ils ont des relations sexuelles très tardives, nous dit Tacite. Ils ne connaissent pas l'argent et ils ne boivent pas de vin. Autant dire, ils s'éloignent de tous les vices possibles de la civilisation romaine.
Ce qui n'est pas vrai, parce que dès cette époque, les Romains exportent du vin dans ces limesses et aux confins du monde romain, et certains en boivent.
Oui, mais Tacite est un philosophe, il n'a jamais rencontré le moindre germain, ça ne l'intéresse pas du tout de savoir s'ils existent vraiment. C'est une sorte d'être idéal que l'on décrit comme étant...
C'est le bon sauvage.
Le bon sauvage, voilà. Alors, il a quand même un très long traité sur la Germanie, où il décrit différents peuples. Donc, plus on s'éloigne du monde romain, meilleur on est. D'une certaine façon, c'est normal, parce qu'on est plus loin de la civilisation. Mais ce thème-là, on va le retrouver chez tout le monde. Chez les chrétiens, de temps en temps, on a des auteurs du 5e siècle disant que les barbares sont des gens formidables.
Salvien de Marseille, par exemple.
Salvien de Marseille, personnage étonnant, qui dit que les invasions barbares sont un bienfait. C'est la preuve de la bonté de Dieu qui vient châtier les mauvais chrétiens. Parce que les barbares, bon, ils sont un peu païens, un peu hérétiques, mais ils sont purs. Et donc, il est normal qu'ils triomphent des Romains corrompus.
Oui, mais sont-ils pour autant les soldats de l'Apocalypse, par exemple, ces barbares qui pénètrent dans le monde romain et qui disent aux chrétiens romains, depuis donc la conversion de Constantin, vous n'êtes pas de bons chrétiens, Bruno Dumézil?
Là encore, Salvien a rencontré des barbares, mais ce n'est pas du tout la question qui l'intéresse. Ce qu'il veut, c'est essayer de choquer le bourgeois en essayant de montrer à ses co-religionnaires que forcément qu'ils sont impurs, forcément qu'ils sont pécheurs, puisque l'Empire romain subit une série de désastres militaires. Ce thème-là, on va le retrouver finalement à travers toute l'histoire. C'est-à-dire que de temps en temps, on a besoin du barbare comme une façon de se régénérer. Et c'est surtout au XXe siècle, avec tout le courant de l'heroic fantasy, dont on vit encore aujourd'hui les derniers feux d'une certaine façon, avec toutes les séries télé.
Game of Thrones en particulier.
Le barbare, c'est un personnage positif.
Alors, ça c'est le bon côté de la médaille, mais il y a aussi évidemment le mauvais côté de la médaille, la sauvagerie, la cruauté, il mange dans les crânes de ses ennemis ou il boit dans les crânes de ses ennemis et on voit comment ça a perduré jusqu'à l'Astérix de nos enfances, de notre enfance. Il est aussi, il manque de fiabilité, il est perfide, enfin en tout cas, en latin, on dit perfidia, et donc c'est quelqu'un sur lequel on ne peut pas trop s'appuyer. Et les Mérovingiens, dont on parlera dans l'émission de mercredi en particulier, s'appuient sur cette perfidie supposée des barbares pour pouvoir justement créer leur propre légitimité, et surtout, après les Mérovingiens, les Carolingiens, Bruno Dumézil.
Dans une certaine manière, il n'y a que la civilisation de référence qui possède la fidesse, la foi, la loyauté. Mais fidesse, ça veut dire aussi la vraie religion. Quand on est dans un contexte chrétien. Donc celui qui est à l'étranger, celui qui est de l'autre côté de la frontière, il est à la fois déloyal et infidèle sur le plan religieux. Ce thème-là va être déployé à partir du VIe siècle pour créer une autre frontière entre civilisation et barbarie. À partir du moment où ce sont des barbares qui ont pris le contrôle des provinces romaines, ils ne peuvent plus vraiment se définir comme barbares. Sauf quand ils ont besoin d'une petite exemption fiscale. Dans ces cas-là, ils disent qu'ils sont barbares parce qu'ils ne sont pas soumis à l'impôt romain. Mais en temps normal, ils ont besoin de se décrire comme civilisés. Comment créer une nouvelle civilisation? Ils disent qu'ils sont la chrétienté. Ceux qui sont de l'autre côté sont les barbares perfides. Perfides parce qu'ils sont traîtres, perfides aussi parce qu'ils sont païens.
Donc ça n'est plus une question ni de violence, ni de anthropologie, pourrait-on dire. C'est simplement chrétien contre païen, et à partir de ce moment-là, la frontière est assez claire. Et vous dites d'ailleurs dans votre introduction à cet énorme ouvrage des barbares que, d'une certaine façon, on peut dire qu'avec l'Empire carolingien, eh bien, la frontière civilisation-barbarie redevient une frontière géographique comme au temps du début de l'Empire romain.
Oui, on réinvente des frontières qui ne sont pas aussi nettes que celles sous l'Empire romain, mais qui sont des frontières entre deux mondes, nous et les barbaries, les barbares. Mais en même temps, tous les thèmes anciens continuent d'exister, c'est-à-dire que le thème de la sauvagerie, de l'animalité, de la différence politique, de la différence raciale ou ethnique qui existe aussi, tout ça commence à se recomposer, à se superposer, ce qui fait qu'au cours du temps, et notamment au deuxième millénaire, quand on parle de barbare, c'est tout. C'est l'autre religieux, l'autre politique, l'autre ethnique, l'autre en termes de culture, l'autre en termes de nourriture. Et selon le besoin, selon le moment, on peut utiliser une rhétorique ou l'autre. Ce qui explique qu'au XIXe et XXe siècle, on va se servir de l'appellation barbare au moment des grands affrontements entre les États-nations européens. Parce que le barbare, c'est l'autre absolu, et donc on peut s'en servir pour tout.
Et cet autre absolu, eh bien, dans l'Empire carolingien, on va par exemple, puisque c'est un autre absolu, procéder au baptême forcé, à des conversions forcées, parce que justement, pour faire entrer le barbare dans l'espace civilisé, eh bien, il faut qu'il passe par la foi.
Oui, entre les années 780 et 810, Charlemagne mène des campagnes de baptême forcé sur le Danube, aux dépens du peuple des Avars, mais surtout en Saxe, avec vraiment des campagnes très violentes, très intenses, pour essayer d'intégrer à ce qu'il estime être la civilisation, avec soit le baptême forcé, on y va vraiment, le baptême ou la mort, soit des parrainages de chefs barbares. À partir du moment où Charlemagne devient le parrain du chef, bien cette fois-ci, son peuple est intégré.
Alors, pas de chance, parce que ces peuples barbares de Germanie, et d'ailleurs, on commence à les connaître depuis un certain temps, mais arrive un nouveau peuple qui vient du sud et de l'est, lui, ce sont les Arabes, qui vont conquérir brusquement toute l'Afrique du Nord, remonter par la péninsule ibérique et menacer justement ces royaumes francs. Et ces Arabes, on les qualifie comment? Est-ce que ce sont des barbares ou est-ce qu'on a du mal à les qualifier, Bruno Dumézil?
Ce qui est bien embêtant, c'est qu'on les connaît pas, justement. Depuis Hérodote, on avait l'habitude de parler de peuples qu'on connaissait. Les bons barbares, c'est des barbares qui sont là depuis toute antiquité. Même si on n'est pas trop sûr, on a les références, on sait que les Hongrois s'aboient dans le crâne de ses ennemis parce que Hérodote a dit que les Scythes faisaient ça, donc dès qu'on voit un roi, il faut qu'il ait son crâne. Mais quand arrivent les Arabes, on n'a pas les références. Alors on va les inventer, on va les appeler les Saracènes, puis bientôt les Sarrasins, parce que ça, on a des textes ethnographiques antiques qui expliquent un peu ce que c'est. On va les appeler les Barbaries, les barbares, parce que on peut à peu près tout mettre. On va les appeler les infidèles aussi, parce que depuis le 8e siècle, la différence entre civilisation et barbarie passe par la différence religieuse. Il faut bien avouer que jusqu'au 11e et même 12e siècle bien avancé, on ne sait pas trop qualifier les Arabes parce qu'on ne sait pas ce que c'est et que comme on n'a pas les références culturelles, selon le cas, selon les besoins, ça sera des gens tout à fait présentables ou les pires des ennemis.
D'autant que Charlemagne n'est pas forcément ennemi avec les souverains de Bagdad ou d'ailleurs. Et en revanche, il est peut-être ennemi avec ceux qui sont aux portes de son empire.
Alors Charlemagne, on le sait, a de très bons contacts avec les Abbassides. Il a fait des alliances, il a un accord pour que Jérusalem constitue un protectorat franc. Par contre, effectivement, il est très ennemi avec les pouvoirs qui occupent Al-Andalus, donc qui occupent l'Espagne. Mais est-ce qu'il comprend véritablement la différence religieuse? À l'époque de Charlemagne, on peut vraiment avoir de gros doutes. Il y a peu de textes, le Coran n'a pas été traduit. Et puis, tout simplement, les termes qui servent à désigner ces pouvoirs du Sud sont extraordinairement variables. Ils le resteront jusqu'à la chanson de Roland. La chanson de Roland, ce sont des païens quand même que va combattre Roland, des gens qui adorent Apollon et Tervagant. Autant dire qu'on ne sait pas du tout ce que peut être l'islam.
Oui, alors vous dites on a absence de textes, mais c'est un peu vrai de toute cette période-là, d'une certaine façon. On a beaucoup de textes, mais pour la longue période qui couvre la période de l'Empire romain tardif, et puis ensuite, effectivement, toute cette période mérovingienne jusqu'au carolingien, on n'a pas des dizaines de textes qui nous décrivent et leurs mœurs, et la façon dont ils se comportent. On en a, mais peut-être pas suffisamment pour un historien. Alors on se dit, quand on est historien, Bruno Dumézil, comme vous, je vais aller voir du côté de l'archéologie. Et ça, on trouve des tombes, on trouve des villages, on trouve des organisations sociales à travers l'archéologie. Mais cette archéologie ne nous éclaire pas directement parce que on ne sait pas très bien comment la faire coller avec les descriptions qu'on a eues des voyageurs ou des géographes de l'Antiquité et du Haut Moyen-Âge.
Oui, vous êtes gentil de dire qu'on a des textes, hein, parce que on en a quand même pas beaucoup, il faut bien l'avouer. Sur le règne de Clovis, on a à peu près 12 lettres qui décrivent le règne de Clovis, 40 ans d'histoire, avec 20 pages d'édition actuelle. Mais l'archéologie, vous avez raison, fournit des masses de documents infiniment plus grands que nos pauvres restes textuels.
On le verra en particulier mercredi dans l'émission que nous avons consacrée au temps mérovingien, l'exposition qui se tient au musée de Cluny.
Mais comme les textes, il faut savoir quelles questions poser aux tombes. Et il n'est pas sûr qu'on pose les bonnes questions, et il n'est pas sûr non plus que les gens qui ont construit les tombes, parce qu'une tombe c'est un ensemble construit comme un texte, que ces gens-là ne nous ont pas autant menti que les gens qui ont écrit les textes. Quand vous fouillez une tombe d'un chef de l'époque de Clovis, vous voyez des armes, vous voyez des bijoux, vous voyez un ensemble de richesses. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il est franc? Est-ce qu'il y a des objets qui le désignent comme franc? Est-ce que ça le désigne comme étant un homme? Est-ce que ça le désigne comme étant un guerrier? Est-ce que ça le désigne comme étant un membre de l'élite? Est-ce que ça le désigne comme le chef d'une petite communauté locale? Selon les archéologues, vous aurez des tombes de francs, des tombes de chefs ou simplement des tombes d'aristocrates. C'est votre point de vue qui voit ou ne voit pas le barbare. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'à la fin de l'Antiquité, il y a une transformation sociale considérable. Là, c'est sûr. Ensuite, est-ce que c'est une invasion? Est-ce que c'est une pénétration, une acculturation? Ou simplement les locaux qui sont mis à s'habiller en barbares? C'est votre point de vue.
Mais vous le savez bien, tout ce travail de déconstruction auquel vous procédez avec des chercheuses et des chercheurs de votre génération, Bruno Dumézil, a du mal à passer parce que tout compte fait, l'imagerie que l'on a gardée en particulier de nos lectures d'enfance nous renvoie toujours aux mêmes stéréotypes, des stéréotypes qui ont pu être créés par des auteurs chrétiens de l'époque mérovingienne ou carolingienne, mais aussi par le cinéma, par la bande dessinée, par les lectures d'enfance et les livres de lecture. Et il est très difficile, quand on est historien, d'aller contre ces stéréotypes, même si c'est ce que vous faites dans un ouvrage collectif comme celui-ci, qui est absolument formidable, il faut le dire.
Oui, mais en même temps, les stéréotypes ont leur intérêt.
Ah,
c'est
ça,
parce qu'on a créé des stéréotypes qu'on a une culture finalement actuelle. Et il ne faut pas aller complètement contre les stéréotypes, dire qu'ils n'existent pas. C'est parce qu'on a dénoncé les barbares qu'on a créé une civilisation qu'on appelle la Renaissance au XVIe siècle. Et c'est aussi parce qu'on a construit une certaine image de la barbarie, ce qui est une autre chose, surtout à partir des années 1914, vis-à-vis des exactions allemandes en Belgique, qu'on va créer aussi un code de la guerre, mais aussi de la paix dans la civilisation européenne. Les stéréotypes, ils ont toujours leur intérêt. Mais bien entendu, il est très difficile de revenir sur certaines idées. Et c'est vrai que ce dictionnaire des barbares avec 600 à 700 entrées, avec des noms qui sont tous les plus épouvantables possibles, des H, des K et des W, ça a l'air très barbare. Et mon cher éditeur m'a dit, oui, il y a quand même beaucoup de noms difficiles là-dedans. Et c'est vrai, mais en même temps, est-ce que ces noms qui pour nous apparaissent barbares étaient perçus comme barbares par ces gens-là? Est-ce que l'on peut déduire d'un nom l'ethnicité, l'identité de quelqu'un? Imaginez que dans 1500 ans, si tous les textes et la plupart des traces matérielles ont disparu, on retrouve la liste des présidents de la Ve République. Mmh. Est-ce qu'on penserait qu'un certain Nicolas Sarkozy n'est pas un envahisseur hongrois? Mmh. Est-ce que François Hollande ne serait pas un batave ayant traversé le Rhin?
Est-ce que Chirac n'aurait pas été lui aussi un chef franc ayant traversé tranquillement pour pouvoir s'installer ici?
Mais là, je pense que des philologues trouveraient des racines latines quand même à Chirac.
Merci beaucoup Bruno Dumézil. Il faut absolument conseiller la lecture de Ces barbares sous votre direction aux Presses universitaires de France. Un ouvrage auquel on reviendra très souvent parce qu'il a aussi non seulement une très belle introduction d'une centaine de pages que vous avez rédigée avec d'autres historiennes et historiens sur justement cette notion de barbare dans le temps, mais il a aussi la capacité à nous éblouir en rentrant notice par notice, grec vu par les romains, Game of Thrones, puisqu'il y a une entrée Game of Thrones qui a été faite d'ailleurs par quelqu'un qui est à notre table. Il s'appelle William Blanc, on va l'interroger tout de suite.
Lancelot, you might as well just fess up. Really, you're a different kind of guy. Move aside your scabbard, for underneath your tabard there is waiting to escape a butterfly.
France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
His name is Lancelot, une composition de Mike Nichols, extrait de la comédie musicale des Monty Python, Spamalot, donc en 1975, choisi par Séverine Cassard, notre réalisatrice, qui a fublé notre technicien Anthony Thomasson d'un casque de chantier, puisque nous sommes en chantier à la Maison de la Radio depuis bien longtemps, qui rappelle les Village People des grandes années, puisqu'on est dans les années 70 avec vous, donc William Blanc. Vous êtes auteur du Roi Arthur, un mythe contemporain, paru chez Libertalia, dans lequel non seulement vous nous racontez l'histoire, ce qu'on peut savoir de l'histoire d'un roi dit Arthur, c'est-à-dire pas grand-chose, de son invention ou sa réinvention à l'époque des Plantagenets juste avant, donc par un moine d'Oxford qui s'appelait Geoffroy de Monmouth, et puis la façon dont ensuite un clerc de la cour de Champagne appelé Chrétien de Troyes l'a récupéré, l'a développé, comment ensuite au XVe siècle il a été là encore récupéré par d'autres avant d'être donc mis en avant par le XIXe siècle anglo-saxon. Et les États-Unis, parce que c'est une des découvertes de ce livre, c'est que tout compte fait, ceux qui sont les plus porteurs de l'idéologie ou de la vision de les chevaliers de la Table Ronde, ce sont pas forcément les Anglais, parce qu'on a compris avec les Monty Python qui se sont beaucoup moqués justement de ces chevaliers de la Table Ronde, mais plutôt les Américains.
Ouais, c'est assez étonnant. En fait, le pays le plus arthurien au monde, c'est les États-Unis, en fait, hein, depuis la fin du 19e siècle. Alors, au début, ça a pris, on en a parlé tout à l'heure en introduction, ça a pris plutôt la forme d'une parodie avec le Yankee du Connecticut à la cour du roi Arthur de Mark Twain, qui se moquait, en fait, en fin de compte, des chevaliers de la Table Ronde pour se mieux se moquer de l'Angleterre victorienne. Et en plus, après, dans la suite du bouquin, dans le prolongement en fait de son roman, en fait, il y a tout un point où en fait il se moque aussi en fin de compte des États-Unis, hein, de la société américaine. Mais assez rapidement aux États-Unis, vous allez avoir et là c'est assez étonnant aussi, c'est une découverte que j'ai fait en faisant des recherches pour ce livre. Vous allez avoir en fait des sociétés de jeunesse qui vont se créer autour, qui vont imiter en fait la table ronde, notamment autour d'un pasteur protestant qui s'appelle William Forbush, qui va créer en fait des groupes de jeunesse arthuriens dont vont s'inspirer
les scouts
Baden-Powell en fait, hein, directement. D'ailleurs, le premier camp scout en 1907 va avoir pour terme la table ronde, hein, donc il y a vraiment une filiation.
Alors c'est vrai que ce que vous nous expliquez, c'est que les Britanniques du 19e siècle en particulier vont reprendre cette légende arthurienne dans un premier temps pour peut-être justifier un idéal colonial, que ce soit en Irlande ou dans l'empire colonial britannique, mais aussi pour justifier un statut, le statut des gentlemen, donc qui, par l'intermédiaire de Kenelm Henry Digby en 1822, va être mis en avant avec cette idée qu'il y a effectivement une sorte de filiation lointaine entre ces chevaliers de la table ronde, pourtant inventés ou réinventés totalement au XIIe siècle, donc autour et proche de l'empire Plantagenet. Et puis, justement, cette société qui n'est pas encore victorienne du début du 19e siècle.
Oui, en plus, cette idée va être popularisée par Tennyson, en fait, hein, le grand poète victorien qui, dans Les Idylles du Roi, va en effet donner en fait une imagerie où on va donner quelque part comme modèle donc à la gentry britannique les chevaliers arthuriens complètement réinventés.
Avec Galad en particulier.
Avec Galad, c'est vraiment aussi dans le but d'éduquer les jeunes. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant, vous allez avoir dans les grandes écoles britanniques, dans les public schools comme Eton par exemple, des portraits de chevaliers arthuriens qui vont être mis en avant comme étant un modèle à suivre en fait. Alors évidemment, c'est des chevaliers arthuriens complètement réinventés. Hein. On leur accole des valeurs qui sont plus les valeurs qu'on leur a collées au Moyen-Âge.
Et puis surtout, on leur accole, par exemple, pour Galad, vous nous expliquez qu'il est calme, donc il n'a pas la rudesse et la violence des ouvriers que l'on est pour l'instant en train de mettre en 1840. Dans les usines, les grandes usines britanniques. Il est guerrier, ça c'est une valeur positive pour l'aristocratie, et il est chaste.
Il est chaste, il y a tout un. Alors en plus, c'est assez étonnant, c'est qu'en miroir, en fin de compte, quand on lit Tennyson, on se rend compte que les mauvais, en fait, hein, parce qu'évidemment, comme dans toutes les bonnes légendes, il faut des bons et des mauvais. Les mauvais, c'est pas les barbares. Hein. D'ailleurs, ça rejoint un peu ce que disait Brune de Musel tout à l'heure. C'est assez étonnant parce que vu qu'on est en plein anglo-saxonisme en Angleterre au 19e siècle, en fait, on fantasme sur les racines anglo-saxonnes des Anglais. Et vu que dans la légende, en fait, médiévale, Arthur est opposé aux Saxons, c'est un peu compliqué de reprendre ça à l'époque. Donc en fait, Tennyson, il va dire en fin de compte, oui, Arthur, il s'oppose à des païens, en fait, hein, c'est pas des Saxons. Mais c'est pas au centre du propos de Tennyson, en fait, les méchants, en fait, quelque part, dans la poésie de Tennyson, c'est les méchantes, en fait, hein, c'est les femmes, en fait, hein, qui sont des tentatrices. Et pour lui, pour Tennyson, celle qui va provoquer la chute de Camelot, hein, donc du royaume d'Arthur, c'est pas du tout Mordred, c'est pas Lancelot, mais c'est Guenièvre, en fait, qui va séduire Lancelot, qui va, donc c'est l'image de la femme pécheresse. Et donc par rapport à ça, on dit aux jeunes garçons, attention, en fait, attention aux femmes, il faut rester chaste comme pouvait l'être Galad.
Alors on comprend que ce 19e siècle, dont on sait combien il a valorisé, en particulier dans sa première moitié, il a valorisé le Moyen-Âge. On a lu effectivement beaucoup d'ouvrages de Christian Amalvi ou d'autres qui nous racontaient comment ce Moyen-Âge avait été réinventé par le 19e siècle. On comprend l'intérêt pour cette question des chevaliers de la table ronde. On comprend moins comment, au-delà du 19e siècle, une fois que le Moyen-Âge est devenu ce qui faisait hurler Jacques Le Goff, le Moyen-Âge, âge sombre de ténèbres, etc., etc., on comprend moins que ça puisse durer, et en particulier que ça puisse passer l'Atlantique. C'est ça qui est quand même très étonnant, William Blanc.
Oui, mais en fait, en fin de compte, déjà les États-Unis n'ont pas été épargnés par la première vague de médiévalisme, hein, donc cette fascination pour le Moyen-Âge. Hein, dès les années, par exemple, en 1839, vous allez avoir un tournoi qui va être recréé en Angleterre, et des années 1840, vous allez avoir l'aristocratie du sud des États-Unis qui vont eux-mêmes s'habiller en chevaliers arthuriens, qui vont réinventer des tournois. Donc c'est pas...
Et c'est vrai qu'on peut voir effectivement dans certains des habits du Ku Klux Klan,
exactement,
etc., etc., des réadaptations effectivement des chevaliers.
Le terme, c'est des chevaliers en l'occurrence. Hein. Ça vient d'un groupe qui s'appelle les chevaliers du Camélia Blanc. Enfin, donc évidemment, il y a tout un médiévalisme dans le Ku Klux Klan en fait. Déjà, il y a cette fascination-là. Et en plus, il y a cette espèce... disons que les États-Unis, enfin, ont un rapport un peu d'amour-haine avec le Moyen-Âge, c'est qu'en fin de compte, le Moyen-Âge, c'est un peu ce qu'il faut dépasser pour devenir en fait un pays moderne, donc une démocratie moderne. Mais en même temps, c'est ce sur quoi il faut retrouver. On a encore une fois, on retrouve des parallèles avec l'imagerie du barbare. C'est en fait c'est quand même une médaille avec deux faces en fait. Il faut à la fois le rejeter, mais se revendiquer pour garder, pour retrouver une certaine pureté, en fait. Donc,
Et on voit bien, effectivement, en vous lisant dans ce roi Arthur, un mythe contemporain chez Libertalien, William Bien Blanc, on voit bien combien, effectivement, il y a aussi une popularisation des Arthurianas, ce que vous appelez, avec une sorte de mixage très, très original qui tient vraiment aux États-Unis, avec le western en particulier.
Ouais, parce que le western, en fait, il y a cette idée, et ça, c'est ce que disait déjà Umberto Eco en disant qu'en fait, c'est le Moyen-Âge, c'est l'enfance. Et bien, en fait, aux États-Unis, il y a une espèce de mix, en effet, entre le western, qui est en fait l'enfance perdue, la sauvagerie ou la pureté perdue des cow-boys, avec celle du Moyen-Âge. Il y a une image d'ailleurs assez frappante où on voit, qu'on a mis dans le bouquin, en fait, où on voit justement un cow-boy qui passe comme ça, donc qui s'en va vers l'horizon, et à côté, en fait, il est précédé par un chevalier. Donc le chevalier, c'est un peu le prédécesseur du cow-boy, en fait.
Alors, ce qui est très étrange, en fait, quand on vous lit, c'est de voir ces figures multiples qui évoluent tout le temps et qui sont là aussi, comme pour les figures du barbare, on le disait avec Bruno Dumézil, parfois contradictoires, parce que ça peut être effectivement les chevaliers de la table ronde de Richard Thorpe avec Robert Taylor dans le rôle principal. Donc une sorte de métaphore de l'anticommunisme, mais ça peut être aussi un peu plus tard, très peu de temps après, ça peut être Kennedy en roi Arthur, et donc on a 10 ans d'écart entre les deux, et pourtant les deux figures peuvent être rassemblées autour de cette figure de la table ronde et des chevaliers de la table ronde.
Mais disons, c'est un bouleversement quand même aux États-Unis en 53, quand sort les chevaliers de la table ronde de Thorpe, on est en pleine vague macartiste. 10 ans après, en fait, à l'assassinat de Kennedy, on est dans une autre génération où en fait on va mettre en avant des valeurs complètement différentes. Et en effet, ce qui est intéressant dans le mythe arthurien, c'est qu'il y a tellement de personnages qu'en fait, c'est extrêmement plastique. Donc, on peut mettre en avant les chevaliers comme étant une espèce de modèle de virilité, et un modèle de résistance par rapport au communisme. Et puis, on peut apprendre un autre personnage après, 10 ans après, on va dire, le roi Arthur, on va l'imaginer comme une espèce de roi jeune, démocratique, qui accueille tout le monde à sa table ronde. Et là, en fait, on a l'imagerie de Kennedy.
C'est le salon ovale. Et on voit les photos, effectivement, que le service de presse de Kennedy à l'époque diffuse de ce roi dans son salon ovale, jouant avec ses enfants, etc.
Oui, tout à fait. Il y a cette imagerie-là. Puis en plus, après sa mort, on va y voir, même Jackie Kennedy va elle-même faire la comparaison dans Life, en fait, donc dans un magazine, en fait, entre son mari, le roi Arthur, une espèce de jeune roi réformateur qui vient éclairer les ténèbres du Moyen-Âge. En fait, c'est ce que disait déjà Malvy dans son livre Le Goût du Moyen-Âge, c'est qu'il y a un Moyen-Âge lumineux et un Moyen-Âge sombre. Et les deux, en fait, on peut les mobiliser en même temps pour les opposer les uns aux autres, en fait.
Alors, il y a aussi, et on l'a vu en ouverture de la séquence avec vous, ce côté parodique aussi qui va bien avec la question des chevaliers de la table ronde. C'est Mark Twain déjà, dans la deuxième moitié du 19e siècle, utilise cela comme un ressort comique, d'une certaine façon, ces chevaliers de la table ronde et cette cour du roi Arthur. Mais ça va durer jusqu'à, évidemment, Kaamelott et la série d'Alexandre Astier, dont vous parlez aussi dans votre livre, William Blanc.
Ouais, mais généralement dans toutes ces parodies, en fait, que ce soit Twain, que ce soit les Monty Python, que ce soit Kaamelott, la tragédie est jamais loin, en fait. Parce que même les Monty Python, quand on regarde bien, en fin de compte, le film est toujours très drôle. En fait, ils prennent toutes les représentations contemporaines du roi Arthur, toutes une à une, et puis ils les massacrent, en fait. C'est un jeu de massacre, les Monty Python, et c'est assez jouissif. Mais à la fin, ça se termine quand même extrêmement mal, même si c'est drôle, ça a l'air drôle comme ça, mais il y a une fin extrêmement dure, en fait. Le monde contemporain, les policiers qui arrivent, en fait, pour mettre le roi Arthur en prison, en fait. Et on a aussi cette espèce de
noirceur.
De noirceur, en fait. Et il y a cette espèce d'imagerie, en fin de compte, d'enfance perdue par rapport au Moyen-Âge. Que ce soit chez Twain, où en fait le roi, enfin son personnage de Hank Morgan, donc qui est un Américain du 19e siècle qui arrive à la cour du roi Arthur, eh bien, il finit par massacrer quasiment tout le monde. Et ça se voit d'ailleurs très bien. Le seul film qui respecte ça, c'est le film soviétique. C'est assez étonnant. En fait,
21 adaptations directes du film, Un Yankee à la cour du roi Arthur, et plus de 50 adaptations en comics. Donc,
à force, maintenant, j'en ai encore découvert d'autres depuis. Où vous allez avoir en fait souvent même des super-héros qui vont aller dans la cour du roi Arthur. Il y a Batman, Superman.
Et ça va jusqu'à Evil Dead 3. Ça va de Sam Raimi en 1991. Donc j'avais pas immédiatement repéré que Ulysse des Trois, c'était une adaptation de Mark Twain et de la légende de...
Et c'est pareil, en fait, il y a aussi une forme de... C'est drôle, mais il y a une forme de noirceur, en fait, parce que le héros est un type, donc est un Américain des années 90, qui se comporte comme un sagouin, en fait, par rapport aux gens du Moyen-Âge et par rapport au roi Arthur. Il les traite, en fait, extrêmement mal. Donc, c'est assez étonnant, en fait. Hein. Donc,
est-ce que vous n'avez pas l'impression de voir des rois Arthur partout, tout de même? Parce que quand vous me dites le dernier samouraï de Tom Cruise, c'est le roi Arthur. Là, je comprends pas. Alors, ça se passe au Japon.
C'est une adaptation, en fait, du Yankee du Connecticut, en fait. Hein. Donc, quand on regarde bien, parce que ça n'a rien à voir avec la véritable histoire de ce qui s'est passé, donc, au moment du passage du shogunat jusqu'au régime impérial, dans les années 1860-70. Donc, en fait, quand on regarde bien, c'est une adaptation du Yankee du Connecticut. Hein. Donc, et oui, en fait, à force, je commence à voir des rois Arthur partout. D'ailleurs, moi, je tiens à remarquer qu'on est autour d'une table ronde, donc voilà,
Faudrait pas que vous alliez voir le dernier film chinois avec Matt Damon, parce que je pense que vous y verriez aussi.
Il y a des chances,
quelque chose qui a quelque chose
en même temps, j'en vois partout, mais il faut bien comprendre que voilà, juste pour 2017, on a déjà trois films arthuriens qui sont annoncés, en fait. Hein,
donc, c'est vrai?
Et trois blockbusters, mais un de Guy Ritchie, un autre Transformers 5 qui va se passer avec les cheveux, enfin, vous allez voir le roi Arthur, vous allez avoir Kingsman 2 qui va sortir, donc c'est des films qui vont être vus par des centaines de millions de téléspectateurs, et vous allez avoir des références arthuriennes qui sont évidentes, en fait, plus une série télé qui est annoncée, en fait, hein, qui mélange des histoires de Templiers avec le roi Arthur.
Et puis on attend toujours, effectivement, le grand film d'Alexandre Astier autour
qui est en cours de tournage. Donc voilà, donc en fait, le roi Arthur, il y en a quand même beaucoup, en fait, et plus ça va, c'est quand même assez fascinant, c'est une découverte, en fait, à force de faire ce livre, j'ai fini par dire, et c'est une réalité, que le roi Arthur est plus présent aujourd'hui qu'il ne pouvait l'être au Moyen-Âge, où en fait le mythe arthurien était diffusé uniquement dans l'aristocratie. Aujourd'hui, avec la culture de masse, la culture populaire, il est quasiment partout et dans des pays où il n'était pas avant.
Et tout ça, on le doit en particulier à Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes, dont vous nous expliquez qu'il est l'auteur de ses cinq romans, dont le dernier est inachevé, donc, et le Conte du Graal, qui invente d'une certaine façon ces questions-là. Chrétien de Troyes, dont vous nous racontez aussi qu'il n'était pas très éloigné de la cour des Plantagenets, même s'il était à la cour de Champagne, il a fréquenté la cour des Plantagenets. Mais je vous invite à écouter cet extrait de l'émission que nous diffuserons demain, du documentaire que nous avons réalisé avec Séverine Cassard, justement, à la cour des Plantagenets. Un parcours normand, c'est ce que nous racontons en particulier, comment le roi Henri II, mais pas simplement Henri II, Aliénor d'Aquitaine, Richard Cœur de Lion, se promenait sur ces territoires continentaux, depuis Barfleur jusqu'à Château-Gaillard. Un extrait.
Le siège du gouvernement des Plantagenets et des rois normands est principalement Rouen, mais aussi beaucoup Caen, qui est la capitale de Guillaume le Conquérant. C'est là où se trouve l'échiquier de Normandie. Et pour rejoindre l'Angleterre, donc il y a Dieppe, Saint-Valéry, sont des ports qui sont dans la Haute-Normandie, dans le Pays de Caux, mais en passant par la baie des Vers, en remontant le Cotentin, où il y a de nombreuses forêts ducales, des forêts royales, le roi peut remonter tranquillement en Angleterre, tout en s'adonnant à son loisir favori, qui est la chasse.
La cour royale est un monde continuellement peuplé d'histrions, de prostituées, de joueurs de dés, de flatteurs, de malfrats, de vauriens, de parasites, de mimes, de bouffons et de fanfarons de toutes origines.
C'est difficile de s'en faire une représentation exacte. Moi, je trouve que ça m'évoque un peu quand on se promène dans nos villages. On apprend qu'à l'époque, par exemple, du roi Henri Plantagenet, ils ont été de véritables lieux de pouvoir et centres névralgiques. Bon, c'est de les voir, non pas un jour de semaine ordinaire, mais un jour de marché, quand d'un seul coup s'installent des tentes, des marchands. Et je pense qu'en fait, on avait de véritables villes mouvantes, en quelque sorte, que les marchands de tous les environs, en même temps d'ailleurs que les prélats et représentants des communautés religieuses, se précipitaient auprès du duc pour voir reconnaître leurs privilèges et leurs biens. En fait, ça devait être vraiment l'animation, l'attraction pour toute la population environnante.
Ils voyageaient comme nous, avec des chariots et des chevaux de somme, avec des bases et des paniers, des oiseaux et des chiens, hommes et femmes mêlés.
Un extrait du documentaire, donc, à la cour des Plantagenets, une chevauchée normande que vous pourrez entendre demain, qui a été réalisé par Séverine Cassard, avec la participation, entre autres, puisqu'elle nous a accompagné d'un bout à l'autre de ce parcours normand, de l'historienne de l'Empire Plantagenet, Fanny Madeline. On retrouvera donc Fanny Madeline et tous ceux qui ont bien voulu participer à ce documentaire demain entre 9h05 et 10h. Et puis mercredi, eh bien, nous parlerons de l'exposition à laquelle vous avez participé, en particulier au catalogue, en l'occurrence Bruno Dumézil, Les temps mérovingiens au musée de Cluny à Paris.
Donc, oui, les temps mérovingiens, les plus beaux objets mérovingiens rassemblés pour la première fois et sans doute avant très longtemps au musée de Cluny, et dans puis, un site qui a été un palais mérovingien.
Oui, et puis par ailleurs, rappelons qu'il y aura bientôt une exposition dont vous êtes le commissaire qui ouvrira au musée d'histoire de France, au musée de Saint-Germain-en-Laye.
Musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye à partir du mois d'avril sur l'Austrasie mérovingienne, le royaume de l'Est, le royaume des barbares de l'Est.
Et pour conclure cette série, jeudi, nous parlerons de l'Occident médiéval musulmans et en particulier des Almohades. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcet. Anthony Thomasson était avec nous à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. Je vous rappelle que nous avons parlé de l'ouvrage collectif dirigé par Bruno Dumézil, Les Barbares, aux Presses Universitaires de France, et celui de William Lang. Il l'a fait tout seul, mais il est très épais. Le roi Arthur, un mythe contemporain chez Libertalia. Et comme d'habitude, vous pouvez télécharger cette émission, vous pouvez également télécharger séparément le feuilleton sur la guerre froide en ouverture de cette émission pour pouvoir garder avec vous l'ensemble de cette série sur la guerre froide. Et vous pouvez nous discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore en nous suivant sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est FabriqueFC.